Chapitre 2. Nouveau caractère. On ne dansait pas encore, mais il y avait déjà beaucoup de monde et les violons commençaient à préluder lorsque les nièces de Sir Hugh entrèrent dans la salle. Elles attirèrent aussitôt les yeux d'un grand nombre d'officiers qui assurèrent à Lionel qu'on les avait attendus avec impatience. « Pour vous dédommager de les avoir attendus, leur dit tout bas Lionel, qui était familier avec eux. « Je vais vous présenter à la riche héritière de Clèves qui fait aujourd'hui sa première entrée dans le monde. Ou plutôt, je me bornerai à vous dire qu'elle est de notre compagnie en laissant à votre sagacité le soin de la deviner parmi les autres. » Cependant, Indiana, brillante de tous ses charmes, animée par l'attente secrète des triomphes les plus flatteurs, conduite par Edgar, accompagnée de Miss Margland, traversait la salle au milieu d'une foule de spectateurs, toujours curieux de regarder une figure nouvelle, fût-elle peu aimable. Mais l'inexpérience d'Indiana n'attribuait leur curiosité qu'à leur admiration. Camilla et Eugenia venaient après elle, moins comme ses compagnes que comme son cortège. Pour Lionel, il ne quittait point les officiers, les pressant de deviner laquelle était l'héritière, s'amusant de leur embarras et leur détaillant les grands biens de Sir Hugh pour les engager à faire leur cour à celle qui devait un jour posséder tous ses trésors. Cependant, Camilla ne fut pas longtemps sans attirer aussi l'attention, quoique l'éclat de sa cousine l'eût d'abord éclipsé entièrement. Petite humiliation qui, en lui faisant sentir son infériorité, éloigna de son esprit toute idée de prétention pour elle-même et donna à son air et à son maintien une simplicité charmante, une modestie franche et libre de toute affectation qui la rendirent, après un moment d'examen, aussi séduisante qu'Indiana l'avait été au premier coup d'œil. L'une faisait naître une admiration sans mélange et l'autre mille observations diverses. Indiana, qui avait compté sur des éloges, ne perdait rien de ses discours flatteurs. Camilla, persuadée qu'on ne s'occupait nullement d'elle, n'entendait ni les louanges ni les critiques, mais si sa cousine était enivrée de se voir le principal objet de tous les regards, Camilla ne l'était pas moins de la nouveauté de la scène qui s'offrait à ses yeux. Pour Eugenia, elle n'eut même pas le bonheur de passer sans être remarquée. Les observations les plus impertinentes sur sa figure et sur sa démarche, quoiqu'elles ne fussent pas faites assez haut pour être entendues distinctement, formaient dans la salle un murmure confus qui n'était pas à son avantage. Le monde, qui ne cherche qu'à rire et n'est pas fort scrupuleux sur la nature de ses amusements, se divertissait aux dépens d'Eugénia, qui fournissait autant de matière aux railleurs que sa belle cousine aux admirateurs de la beauté et son aimable sœur aux partisans des grâces et de la physionomie. Cependant, elle ne souffrit pas de ces humiliantes censures parce qu'elle était loin de soupçonner qu'elle en fût l'objet et parce que son esprit était agréablement préoccupé de toutes les impressions que fait naître dans une âme encore neuve un spectacle qu'on voit pour la première fois. Elles avaient déjà fait deux ou trois tours dans la salle lorsque les danses commencèrent à se former. Edgar pria Indiana et le maître des cérémonies amena le major Sherwood pour donner la main à Camilla. Eugénia, entièrement délaissée, resta à la charge de Miss Margland. Mais comme il ne lui était pas même venu dans l'idée qu'on l'inviterait, elle n'eut aucun chagrin de cet abandon, et ses yeux ne cessèrent de suivre avec plaisir le mouvement des danses et la variété des figures. Miss Margland eut beaucoup moins de philosophie, et saisissant cette occasion de blâmer Sir Hugh, « Si votre oncle, lui dit-elle, eût consenti, comme je le désirais, à vous laisser paraître à Londres dans l'éclat qui vous convient, une pareille disgrâce ne vous arriverait pas aujourd'hui. Chacun aurait connu qui vous êtes et vous n'auriez pas manqué de cavalier. Cependant, je désire de tout mon cœur que, dans toute la soirée, personne ne vous offre sa main pour que votre oncle voie enfin qui, de lui ou de moi, avait raison. Et pour que vous jugiez vous-même, Eugénia, qu'il vaut mieux écouter ceux qui ont en vue notre avantage que de rester dans une continuelle indifférence, comme si l'on n'avait personne de qui il fût bon de prendre les avis. » Eugénia s'amusait trop pour écouter cette remontrance. Accoutumée depuis longtemps à ne pas attacher un grand prix au conseil de Miss Margland, la voix de celle-ci frappait son oreille sans captiver un moment son attention. Sa sœur et sa cousine, égarées dans le tourbillon du bal, y réussissaient infiniment, tout en commettant les petites fautes qui sont inévitables lorsqu'on paraît pour la première fois dans une assemblée. Au reste, les spectateurs ne sont jamais si favorables qu'en pareille occasion, quoiqu'ils n'aient pas tous un même degré d'indulgence. Ils attribuent ces fautes à la modestie. L'orgueil se plaît à composer avec elle. La rougeur et l'embarras font tout pardonner, et la maladresse, que la timidité donne et qu'elle excuse, est peut-être plus intéressante que l'aisance des manières. Quand les premières danses furent finies, on changea de cavalier. Le major Sherwood engagea Miss Indiana. Mandelbert reprit la main de Camilla. « Qu'est devenue ma sœur Eugénia ?» lui dit-elle avec inquiétude. « Pauvre Eugénia, j'ai peur qu'elle n'ait longtemps d'autre partenaire que Miss Margland. Cherchons-la. » Mandelbert, promenant ses regards de tous côtés, l'aperçut dans un coin de la salle où elle observait tout paisiblement, tandis que Miss Margland l'ennuyait de ses représentations et de ses plaintes. « C'est une chose vraiment respectable, dit Edgar, que la philosophie courageuse avec laquelle elle supporte ce délaissement. » « Je suis désolée, répondit Camilla, que sa philosophie soit mise à cette épreuve, et je donnerai tout au monde pour que quelqu'un l'invitât à danser. »« Mais croyez-vous qu'elle y consentit ?»« Assurément, je le crois. Les suites de son ancienne chute ne lui interdisent pas ce plaisir. Elle a eu le même maître que nous à Clèves. La danse la fatigue un peu plus que pour les autres, voilà tout. »« Eh bien, dit Edgar, quand j'aurai dansé avec vous. » « Voulez-vous être son partenaire ?» interrompit vivement Camilla. « de grâce, priez-la tout de suite. J'aurai 100 fois plus de plaisir que si je dansais moi-même. » Alors elle s'échappa promptement, aperçut un banc vide et s'y plaça pour éviter toute contestation et forcer Edgar de faire ce qu'elle désirait. Edgar, la regardant d'un œil qui lui reprochait son espièglerie, quoiqu'au fond il fût pénétré d'admiration pour elle, s'approcha d'Eugénia et lui demanda sa main. Eugénia la lui donna sans peine, et contente jusqu'à ce moment du rôle de spectatrice, elle ne fut pas fâchée d'être à son tour de la partie. Camilla profita de cet instant de relâche pour jeter un coup d'œil sur ses voisins. Les premières personnes qui la frappèrent furent d'un côté une dame qui, tout entière occupée de ses filles, ne voyait et n'admirait qu'elle dans toute l'assemblée. De l'autre, un jeune homme d'une figure brillante, mais dont la mise annonçait tellement un petit maître qu'il en était ridicule. On voyait, à la facile négligence de ses manières, l'intime conviction où il était de sa supériorité sur tous les autres. Cependant, ses regards laissaient quelquefois entrevoir, à travers tant d'affectations volontaires, une disposition secrète à rire des ridicules qu'il se donnait. Il était dans ce moment debout et lorgné de tous les côtés. Miss Margland, regardant comme une place vide le siège dont il ne se servait pas, à la gauche de Camilla, crut pouvoir s'en emparer et dit à ce jeune homme « Avec votre permission, monsieur !» Mais lui, sans paraître l'avoir entendu, s'assit aussitôt, versant sur son mouchoir un flacon d'eau suave et s'écriant « Quelle détestable salle pour danser !» Camilla, croyant qu'il lui parlait, se tourna de son côté. Mais voyant qu'il ne la regardait pas, elle s'imagina qu'il s'était adressé à Miss Margland. Miss Margland se l'imagina aussi, et, piquée de ce qui lui avait enlevé sa place, elle répondit avec humeur « Oui, monsieur, détestable pour danser, et encore plus pour ne pas danser. Si bien des gens ne se bornaient pas à être spectateurs, il y aurait des sièges pour tout le monde. » « Supérieurement observé, répondit-il en tirant d'une boîte quelques bonbons. « Mais ne vous asseyez-vous pas, vous devez être énormément fatigué. Permettez que je vous prie de vous asseoir. » Miss Margland, supposant qu'il allait lui céder la place pour réparer son manque d'attention, le remercia civilement et lui dit qu'elle ne serait pas fâchée de s'asseoir parce qu'elle s'était tenue debout fort longtemps. « Cela est-il possible ? » s'écria-t-il en reprenant sa lorgnette. « Que je vous plains, mais que sont donc devenus les Mercures, les Ganymèdes du bal ? « Vous feriez bien, je crois, de les appeler. Ils vous apporteraient une chaise. » Miss Margland, extrêmement courroucée, lui tourna le dos et Camilla lui offrit sa place. Mais comme celle-ci avait déjà dansé et que probablement elle danserait encore, la gouvernante ne voulut pas qu'elle se fatiguât. « Appellerai-je, reprit le jeune homme, quelques-uns de ces barbares, de ces goths, de ces vandales qui vous laissent ainsi dans la peine ?» Miss Margland ne dédia pas répondre, mais il n'y fit pas attention et il se mit à appeler les domestiques, quoique sans élever la voix. « Ici, garçon, pourvoyeur, surveillant, de quelque titre qu'on vous nomme, pourquoi n'apportez-vous pas une chaise à cette dame ?»« Monsieur, vous êtes très obligeant, » répondit la gouvernante d'un ton qui voulait dire, « vous êtes très impertinent. » Alors elle appela elle-même et se fit donner un siège. Le jeune homme laissa tomber ses regards sur Camilla et l'examina avec beaucoup d'attention. Celle-ci, un peu confuse, détourna la tête, mais il se hâta de lui dire d'un ton familier « Comment se porte Sir Hugh ?» Un peu surprise, elle s'écria « Connaîtriez-vous mon oncle, monsieur ?»« Pas le moins du monde, » répondit-il froidement. Camilla resta fort étonnée, mais un moment après, il ajouta « Considérez, je vous prie, cette inimitable figure. N'est-elle pas exquise ? Peut-on supposer quelque chose au-delà ?» C'était une femme dont la robe neuve, dans un goût antique, l'air emprunté, les manières communes et à prétention, auraient fait rire Camilla si elle n'eût été déconcertée par cette apostrophe aussi libre qu'étrange. « Monsieur, » dit Miss Margland, en faisant signe à Camilla de se taire pour avoir le plaisir de répondre à sa place, « les assemblées publiques offrent une compagnie si mêlée qu'elles sont peu convenables aux jeunes personnes comme il faut. » Car il n'y a pas plus moyen de savoir avec qui l'on danse qu'avec qui l'on parle. Extraordinairement vrai, madame, répliqua l'autre en détournant les yeux avec dédain pour ne pas la regarder. Mais bientôt, par une seconde exclamation à Camilla, son voisin la pria de jeter les yeux sur un groupe. Parfait, incomparable. Si vous dessinez, je vous supplie instamment de faire un croquis de cette longue figure-là. De ma vie, je n'ai rien vu de si délicieux. Miss Margland se hâta encore de répondre « Les caricatures, monsieur, ne conviennent pas aux demoiselles qui entrent dans le monde. C'est un genre d'esprit dont l'habitude est dangereuse à prendre. » « Prodigieusement bien dit, madame. » Et, se levant d'un air de dégoût et d'ennui, il alla se faire voir dans une autre partie de la salle. Miss Margland ne douta point que ce ne fût quelque aventurier irlandais qui s'était paré de son mieux pour séduire quelque héritière, et défendit à Camilla de faire aucune attention à cet impertinent. La contredanse finie, Edgar amena Eugénia et dit à sa sœur « À présent, à moins que quelque enchantement ne s'y oppose, j'espère que vous danserez avec moi. » « Et même quand il y aurait quelque charme contraire, répondit-elle gaiement, je suis très disposée à le rompre. » Elle se leva en effet. Mais Miss Margland appela Edgar et lui demanda d'un ton de reproche s'il abandonnait Miss Lindmer, qui revenait dans ce moment, conduite par le major Sherwood. « Vous voyez qu'elle est entièrement libre. »« Oui, madame, » répondit Edgar, tenant toujours la main de Camilla, « et il n'y a point d'homme dans la salle qui ne doive aussi voir cela avec plaisir. »« Arrêtez, Miss Camilla !» s'écria Miss Margland. « Je pensais, Monsieur Mandelbert, que Miss Lindmer avait été mise sous votre protection par Sir Hugh. »« Oh, cela ne fait rien !» dit Indiana, avec toute la fierté que lui inspirait tant d'hommages qu'elle avait reçus. « Je ne doute pas que quelqu'un de ces messieurs ne veuille bien se charger de moi. » Edgar, quoique un peu déconcerté, continuait toujours d'emmener Camilla, mais par égard pour Miss Margland, dont le déplaisir était visible, elle le pria de donner la main à sa cousine et retourna s'asseoir en lui promettant de danser ensuite avec lui. Edgar lui reprocha de manquer à sa promesse, mais ce fut inutilement. Miss Margland parut enchantée et Indiana si piquée qu'en la conduisant à la danse, Edgar n'eut pas peu de peine à l'apaiser. Miss Margland était restée avec les deux sœurs lorsqu'un homme extrêmement distingué par sa figure et par ses manières s'approcha d'elle et lia conversation avec la gouvernante. Celle-ci fut si reconnaissante de cette attention qu'apprenant de lui qu'il attendait le maître des cérémonies pour le présenter aux deux jeunes demoiselles et lui procurer l'honneur de danser avec l'une ou l'autre, elle oublia l'étiquette en faveur de sa politesse et l'assura que cette formalité était inutile avec un aussi galant homme qu'il paraissait l'être. Et déjà Camilla se levait pour obéir à Miss Margland, lorsqu'à leur grande surprise, il prit la main d'Eugénia. « Voilà !» s'écria Miss Margland quand il se fut éloigné. « Voilà ce que j'appelle un vrai gentilhomme. Je l'ai jugé tout de suite. Quelle différence entre lui et ce fat qui nous parlait tout à l'heure ! Il a eu la politesse de prier Eugénia, parce qu'il s'aperçoit très bien que personne ne songeait à elle, hors M. Mandelberg ou quelque autre ancienne connaissance. Le major Sherwood vint alors à Camilla, marquant d'avance par des salutations et un sourire engageant qu'il se disposait à la prier, lorsque le même jeune homme que Miss Margland venait de traiter de fat, faisant une pirouette sur le talon, se jeta soudainement entre le major et Camilla, comme s'il n'avait pas aperçu l'officier. Il s'adressa à la jeune Miss, mais d'un ton de voix si bas que, ne pouvant entendre un seul mot de ce qu'il disait, elle en conclut qu'il venait aussi l'engager. Un peu confuse, elle le regarda comme pour le prier de s'expliquer. Le major en conclut à son tour qu'il était venu trop tard et il se retira. L'autre alors, s'asseyant négligemment auprès d'elle, lui dit d'un ton nonchalant « Quelle chaleur, mademoiselle ! Je ne conçois pas comment vous pouvez la soutenir !» Camilla resta entièrement décontenancée, mais docile aux injonctions de Miss Margland, elle ne répondit rien. « Voyez, ajouta-t-il, comme tous ces gens-là dansent. Ne dirait-on pas que les glaces de la Norvège les invitent à cet exercice ? Concevez-vous de quels éléments ces êtres-là sont formés ?» Pas de réponse. Il continua « Je suis enchanté que vous n'aimiez pas la danse. »« Moi ? » s'écria-t-elle dans le premier mouvement de sa surprise. « Oui, vous l'avez dans une extrême antipathie, n'est-il pas vrai ?» Non, assurément, tout au contraire. Que dites-vous ? Voilà qui est bien extraordinaire, surprenante à l'extrême. Auriez-vous la bonté de me dire en quoi la danse peut vous plaire ? Monsieur, dit Miss Margland, il est très naturel qu'une jeune personne prenne plaisir à un amusement agréable, pourvu qu'elle soit à l'abri de tout danseur ou de toute société peu faite pour elle. Divinement pensé, madame, répondit-il, affectant de prendre une prise de tabac et tournant la tête de notre côté. Lionel accourut auprès de Camilla et, se penchant dans son oreille, lui raconta dans quelle incertitude il avait mis les officiers au sujet de la véritable héritière de Clèves. Mais le jeune homme, l'interrompant par un grand éclat de rire, mademoiselle, s'écria-t-il, regardez, je vous prie, cet homme qui est devant nous. N'est-ce pas là une délicieuse créature avec ses habits neufs ? Ils lui sont si justes qu'il ne peut se remuer que tout d'une pièce. Je donnerai ma vie pour savoir qui il est. » Puis, s'adressant à un homme qui portait des rafraîchissements à une dame, « De grâce, mon très cher ami, pourriez-vous me dire quel est cet agréable cavalier que vous voyez là si droit et si roide ?»« Oui, monsieur, je le connais, répondit l'autre, son nom est Dubster. C'est un heureux mortel très favorisé des dames. Camilla, demanda Lionel, voulez-vous danser avec lui ? Et courant à M. Dubster, il lui dit quelques mots à l'oreille. M. Dubster s'approche aussitôt de Camilla et d'un air gauche mais solennel, lui dit « Vous désirez donc danser, madame ?» Se doutant bien qu'il lui était envoyé par Lionel, mais peu curieuse de se montrer avec un homme remarquable seulement par ses ridicules, elle baissa les yeux, se pinçant les lèvres pour ne pas rire, et lui répondit qu'elle avait déjà dansé il y avait peu de temps. « Mais si vous vouliez recommencer, madame, je suis tout prête à vous obliger. » Elle vit que cette complaisance avait été sollicitée par son frère comme une faveur, et dans cette position, moitié comique, moitié embarrassante, craignant, si elle le refusait, d'être obligée de refuser ensuite Edgar ou tout autre, car Miss Margland l'avait informé des règles du bal à cet égard, elle regarda la gouvernante pour lui demander conseil, tandis que son voisin, les mains sur ses côtés, les yeux fixés sur M. Dubster, le considérait de la tête aux pieds avec tant d'étonnement, avec une attention si plaisamment curieuse, que l'autre s'en aperçut et lui lança de temps en temps des regards de surprise et de colère. Miss Margland, qui avait fort bien compris l'embarras de Camilla, dit à M. Dubster d'un ton d'autorité. « Monsieur, je suppose que vous connaissez l'étiquette des assemblées publiques. »« Quelle étiquette, madame ?»« Vous savez, je suppose, qu'une jeune dame de quelque distinction ne danse pas avec un étranger qui ne lui a pas été présenté par le maître des cérémonies. »« Oh, pour cela, vous avez raison, madame, et je vais le chercher si vous le désirez. »« Il y a là, en effet. » « Quoi, sérieusement, vous voulez danser avec lui ?» s'écria le voisin de Camilla. Cela fera un spectacle charmant. Il ne m'entre pas dans la tête qu'il puisse mouvoir les bras ou les jambes. Je donnerai 50 guinées pour le faire peindre ce moment. » M. Dubster revint et dit à Miss Margland qu'il ne savait pas qui était le maître des cérémonies et qu'il n'avait pu le reconnaître parce qu'il ne l'avait jamais vu. « Oh, de grâce, dispensez-vous de le chercher, » lui dit Camilla. « Rien au monde n'est moins nécessaire. » « Oui, vous avez raison, » répondit l'autre qui la comprenait fort mal. « Cela ne nous empêche pas de danser, car il faudra bien qu'il vienne, et soit avant, soit après, nous saurons l'un et l'autre qui nous sommes. » Camilla se trouva plus embarrassée qu'auparavant, et Miss Margland cherchait quelques nouvelles objections, lorsque M. Dubster, faisant un cri de surprise, « Oh, ciel, voilà qui est bien pire. J'ai perdu un de mes gants. Je les avais tous deux en entrant, j'en suis bien sûr. Je l'aurais laissé tomber dans l'antichambre. Mais peu importe, et si cela vous est aussi égal qu'à moi, je danserai bien avec un seul gant. » La gouvernante l'assura que rien ne serait plus ridicule et qu'elle ne laisserait pas aller Camilla. « Oh, alors je vais tâcher de le retrouver. Mais cela nous fera perdre beaucoup de temps. » À moins que ce monsieur-là, qui n'est occupé qu'à nous regarder tous, n'ait la bonté de me prêter un des siens. « Monsieur, » répondit le jeune homme, en se remettant d'un grand éclat de rire et le regardant avec dédain, « j'imagine, au contraire, qu'il ne vous irait pas du tout. Eh bien donc, je vais dire à Tom X de m'en acheter une paire, car ce serait pitié qu'une jeune dame perdît l'occasion de danser pour une pareille bagatelle. » Camilla voulut en vain le retenir. Il alla fort tranquillement à la découverte de son gant, et revenant bientôt d'un air consterné, il dit à ses dames « Il faut absolument que quelqu'un l'ait mis dans sa poche. Pour Tom X, je ne sais ce qu'il est devenu, je ne l'ai pas trouvé plus que mon gant. Mais j'ai chargé un petit garçon de m'en aller racheter une paire s'il trouve encore quelques boutiques ouvertes. » Camilla le pria vivement de rappeler son commissionnaire. « Bon, répondit-il, une paire de gants ne coûte pas bien cher, mais ce qui m'afflige, c'est de différer si longtemps votre plaisir, car le petit garçon ne pourra guère être de retour que dans une heure au moins. Mais si ce monsieur qui me regarde avec tant d'attention voulait danser avec vous en attendant, je ne m'y opposerai pas. » Ne recevant pas de réponse, il lui dit, en élevant la voix, « M'avez-vous entendu, monsieur ?»« Monsieur, vous êtes d'une complaisance indicible. » répliqua l'autre sans le regarder et sans ajouter un seul mot. Très offensé, M. Dubster ne répondit rien et se tint devant Camilla, debout, la tête droite et l'air maussade. Lionel, l'apercevant dans cette posture, accourut en éclatant de rire. « Ma chère sœur, avez-vous bien dansé ?» Camilla, quoiqu'en riant aussi, lui fit un signe de reproche, tandis que M. Dubster s'excusait gravement sur la perte de son gant et sur l'absence de Tom X. Cependant, si cette vieille dame avait été moins difficile, j'aurais pu tout aussi bien danser avec un gant. Tout ce qu'on aurait pu en conclure, c'est que j'avais l'autre dans ma poche. Ce discours redoubla la gaieté de Lionel et piqua tellement la gouvernante que, prenant à part le malin frère, elle lui demanda comment il avait pu envoyer à sa sœur un cavalier si plat et si commun. « Parce que vous n'avez pris aucune peine pour lui en procurer un meilleur, » répondit-il négligemment. Puis, revenant à M. Dubster et lui faisant une profonde révérence, il lui dit que Miss Margland et sa sœur seraient charmées de jouir de sa compagnie pendant le thé. En vain, Miss Margland fronça le sourcil. M. Dubster salua les dames en signe de consentement et il se disposait à les conduire à la salle où l'on devait prendre le thé, lorsque le même jeune homme, qui avait été si familier avec Camilla, appela M. Dubster. « De grâce, mon cher monsieur, lui dit-il, quel est ce seigneur Thomas qui a l'honneur d'être si avant dans vos bonnes grâces ?»« Qui, moi, monsieur, je ne connais ni le seigneur Thomas, ni aucun autre seigneur. Ainsi, j'ignore ce que vous voulez dire. Ne vous ai-je donc pas entendu, monsieur, parler d'un certain Tom ou Thomas ?» « Ah, je suppose que vous voulez parler de Tom X. »« Oui, probablement, monsieur, quoique je n'ai pas la mémoire très exacte sur les noms des gentilshommes. »« Quoi, ne le connaissez-vous pas, monsieur? C'est le premier garçon du restaurateur de ce bal. » À ces mots, il suivit le reste de la compagnie. Lionel le plaça près de Camilla, malgré tous les signes que lui faisait la gouvernante. et celle-ci se consola de toutes les contradictions qu'elle essuyait en invitant de son côté l'honnête partenaire d'Eugénia, dont elle apprit d'un des garçons du bal que le nom était Monsieur Bellamy. Un nouvel objet appela dans ce moment, ou plutôt commanda l'attention. Une femme qui n'était pas jeune, mais encore belle, entra d'un air aisé jusqu'à l'insolence. Elle était dans un négligé très élégant, ayant au bras un sac d'où sortaient des nœuds qu'elle tressait nonchalamment. Elle traversa le salon du bal, s'avança jusqu'à la pièce où l'on prenait le thé, s'arrêta près de la porte et regarda tout le monde avec des yeux où se peignait le sentiment de sa supériorité sur tout ce qu'elle voyait et de la plus parfaite indifférence sur ce qu'on en pourrait penser. Bientôt, elle fut suivie de tous les officiers et de plusieurs autres jeunes gens dont l'empressement à se montrer connu d'elle annonçait que c'était une femme de quelque distinction. Elle sembla ne s'en apercevoir que pour les charger tour à tour de quelques commissions frivoles. À l'un, elle donnait à tenir son sac, elle demandait une chaise à l'autre, un troisième recevait l'ordre d'aller lui chercher un verre d'eau. Elle voulut rester près de la porte parce qu'on ne respirait pas ailleurs. Elle désira quelques rafraîchissements. Tout ce qui l'entourait courut avec zèle pour les lui procurer, et quand ils arrivaient, elle les rejetait avec dédain. La table à thé que présidait Miss Margland n'était pas loin de la porte. On ne perdait rien de tout ce que disait la dame, qui, quoiqu'elle ne prononça d'abord que quelques demi-mots en ricanant, communiqua bientôt ses remarques à ses voisins avec cette liberté qui témoigne qu'on ne se met guère en peine d'être entendu des autres, encore moins de leur déplaire. Lionel, qui vit que tous les gens du bon air s'empressaient autour d'elle, oublia M. Dobster et ses gants. Il ne fut plus occupé que du désir de faire sa cour, comme tout le monde. Le colonel Andover, auquel il s'adressa pour être admis, perçant aussitôt la foule, s'écria « Mrs. Harlberry, me permet-elle de lui présenter M. Tyrold ?»« Oh, de grâce » répondit-elle, « n'interrompez pas le général qui me dit en ce moment la chose la plus intéressante. Continuez, général, parlez toujours. » Lionel attendit son tour avec résignation, ébloui d'ailleurs par les raisées de cette femme et fier d'emporter à l'université, quand il y retournerait, le vernis de la mode et du meilleur ton. Après avoir ri quelques minutes avec le général Kinsale, Mistress Harlberry se retourna vers le colonel Andover. « Maintenant, colonel, je vous écoute. Que me disiez-vous ?»« Monsieur Tyrold, répondit le colonel, désire avoir l'honneur de vous être présenté. » « De tout mon cœur. » Lionel s'incline respectueusement. « Je suppose que monsieur demeure dans notre voisinage. Alors, colonel, comment se fait-il que vous ne l'ayez pas amené chez moi ? Monsieur Tyrold, je me flatte que vous en montrerez quelque mécontentement au colonel. » Lionel préparait une phrase galante pour reconnaître ce reproche obligeant quand Mistress Harlberry dit au colonel « Regardez, je vous prie, cet insupportable Sedley Clarendel. Comme il est assis là-bas tranquillement, allez, colonel, allez lui dire que je veux lui parler sur l'heure. » Le colonel obéit, mais Sedley s'excusa sur ce qu'il était horriblement fatigué. « De grâce, ajoutait-il, dites à Mistress Harlberry que je serai demain matin à ses pieds. » « Il est insupportable, s'écria-t-elle, et chaque jour il le devient davantage. Retournez, colonel, et dites-lui que s'il me tient rigueur, je suis morte. » Cette seconde ambassade réussit. Sedley fit un mouvement d'impatience et se leva pour suivre le colonel. « Madame, s'écria le général, vous voyez votre victoire. »« Ce que je vois surtout, répliqua Mistress Harlberry, c'est qu'elle m'a été assez disputée. » Sir Sedley s'appuya languissamment sur la chaise de Mistress Harlberry, bégaya quelques mots et s'attendait à des reproches. Mais il fut bien surpris quand elle se contenta de lui demander d'un air indifférent comment il se portait. Puis, lui tournant le dos assez brusquement, elle pria le colonel Andover de lui faire connaître toutes les personnes qu'elle voyait là. Dans ce moment, parut un jeune enseigne qui, selon toute apparence, avait dîné dans les environs et qui, probablement aussi, entrait pour la première fois dans un bal. Son ton et ses manières en étaient la preuve. Il aperçut le colonel Andover, vint à lui, lui frappa sur l'épaule et lui dit en jurant très haut « Ah ça, colonel, j'espère que tu m'as gardé le plus joli petit ange de ce bal-ci, car tu sais ma répugnance pour les vieilles figures. Je ne peux pas les souffrir. » Andover, embarrassé, lui conseilla de se retirer, mais l'enseigne, toujours jurant, déclara qu'il ne sortirait point, entra dans le salon de thé, fit la revue de toutes les femmes, se plaça vis-à-vis d'Indiana, la proclama la plus belle et lui dit qu'il venait de quitter la plus charmante partie qu'il eût jamais liée dans le comté pour avoir le plaisir de danser avec elle. Indiana, qui n'avait pas le plus léger doute de la vérité de ce discours et qui ne s'apercevait pas que ce jeune homme était ivre, accepta son invitation. Mais Edgar, effrayé du danger auquel cette réponse exposait Indiana, dit à l'enseigne que cette demoiselle était engagée pour les deux prochaines contredanses et que c'était avec lui. « Mademoiselle ne me l'a point dit, » répliqua l'enseigne assez échauffée. « Miss Lindemer me pardonnera, » reprit froidement Mandelbert, « si plus intéressée qu'elle à mon souvenir, j'ose le lui rappeler. Je crois qu'il est temps de prendre nos places. » L'enseigne murmura, mais n'insista point, et Miss Indiana, qui ne pénétrait point le motif de la conduite d'Edgar, se félicita de l'effet de sa beauté. Camilla voyait avec frayeur qu'il ne lui restait de ressources contre les empressements de M. Dubster que ses gants qui n'arrivaient point. Comme on savait qu'il n'attendait que cela pour danser avec elle, personne n'osait l'engager. Miss Margland permit à Miss Eugenia de danser avec l'étranger qu'elle favorisait. Après cette contredanse, Edgar reconduisit Indiana près de la gouvernante, à laquelle il conseilla de retourner à Clèves sur le champ. Autrement, dit-il, on ne pourrait, sans contrevenir aux lois du bal, refuser à l'enseigne de danser avec Indiana. Vous voyez qu'il se dispose à réclamer sa main, et ce jeune homme ne me convient pas. Miss Margland le remercia de ce bon avis, surtout de l'intérêt qu'il prenait à sa pupille. Elle rassembla toutes les jeunes personnes confiées à sa surveillance et se hâta de descendre avec elle l'escalier. L'enseigne était furieux de leur départ et M. Dubster s'écriait en poursuivant Camilla jusqu'à la voiture « Mais pourquoi vous enfuir quand mes gants arrivent? Je vous en supplie, revenez, voilà mes gants !»